Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un texte qui suscite des interrogations et même plus des critiques virulentes depuis des semaines. Le projet de loi français Asile et Immigration sera présenté demain en Conseil des ministres. Le texte est considéré comme trop mou à droite, trop répressif à gauche et par de nombreuses associations. Il divise également la majorité. Le but de l'exécutif, c'est d'accélérer les procédures de demande d'asile et l'intégration de ceux qui en bénéficieront, mais aussi de faciliter les expulsions en augmentant la durée de rétention pour les personnes en situation irrégulière. Le droit d'asile est-il menacé en France ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Geneviève Jacques, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la CIMAD, qui est l'une des principales associations de soutien aux migrants, aux réfugiés et aux déplacés, aux demandeurs d'asile et à tous les individus en situation irrégulière. Et Florent Boudier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche de la Gironde, et c'est vous qui serez le responsable du groupe pour ce texte lorsqu'il arrivera à l'Assemblée nationale au mois de mars. Il y a eu, en 2017, plus de 100 000 demandes d'asile en France. Il fallait un nouveau texte, Geneviève Jacques ?
Écoutez, je ne pense pas qu'il fallait un nouveau texte, et c'est pas que nous qui disons ça, le Conseil d'État vient aujourd'hui de s'étonner que on produise une nouvelle loi aussi rapidement, alors que le bilan des lois précédentes qui s'accumulent à chaque ministre de l'Intérieur, il y a une nouvelle loi, n'avait pas été fait. Donc une nouvelle loi n'était pas nécessaire. Oui, des mesures doivent être prises, mais celles qui se figurent dans cette nouvelle loi ne vont pas, selon nous, dans le sens souhaité pour répondre aux défis du moment.
On va en parler. Florent Boudier, je suppose que vous êtes d'un avis contraire. Il y avait une nécessité d'un nouveau texte. Le précédent datait de 2015.
Le précédent datait du 7 mars même 2016, c'est-à-dire plus récemment encore. Mais bien sûr qu'il y a une nécessité d'intervenir, d'agir, et donc par la voie réglementaire, par la voie législative, ça dépend de quel sujet on parle. La situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante. Loin de là. L'indignité, c'est aujourd'hui. L'inhumanité, c'est aujourd'hui. Ce sont des personnes qui viennent chercher la protection en France et à qui on dit, on vous répondra dans 12, 13, 14, 18 mois. Et qui, d'ailleurs, jusqu'à l'arrivée à la préfecture, c'est-à-dire juste pour déposer leur enregistrement demande d'asile, faut parfois un mois, deux mois. Et dans ces conditions, on les passe dans la rue. Donc, la réalité de la situation aujourd'hui nécessite d'intervenir. Certaines dispositions seront prises par la loi, d'autres par la voie réglementaire. Le rapport Taché, d'Aurélien Taché, par exemple, sur les questions d'intégration, sur les mesures d'intégration, n'est pas dans la loi pour l'essentiel, parce que ça sera sous forme de décisions qui seront des décrets, des arrêtés ministériels. Donc oui, il faut agir, bien sûr, parce que la situation actuelle n'est pas humaine et n'est pas tenable.
Alors, il faut raccourcir l'instruction des demandes d'asile, Geneviève Jacques ?
Florent Boudier vient de le dire. Il y a actuellement une situation qui est indigne pour les demandeurs d'asile et plus généralement pour les personnes, pour beaucoup de personnes étrangères, et ça concerne différentes étapes pour ceux qui veulent déposer une demande de protection. La première étape, c'est celle de pouvoir déposer sa demande, de pouvoir être entendu par l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui va décider si ces personnes relèvent de l'asile ou pas. Et là, il y a une espèce de machine à gaz qui a été mise, qui a été montée à travers les années, et qui rend extrêmement difficile et très long ce parcours. Pour nous, c'était pas nécessaire de faire une loi sur ça. Il faut simplement constater que ce qui a été mis en place ne fonctionne pas, et que ce qu'il faut, c'est davantage de personnes dans les préfectures pour pouvoir accueillir plus vite et donner des rendez-vous plus vite à l'OFPRA. L'OFPRA a déjà raccourci les délais.
L'Office français de protection des réfugiés apatrides.
Le problème n'est pas au niveau de l'OFPRA, il est avant, et le raccourcissement des délais va dans le bon sens si ce raccourcissement ne s'accompagne pas d'une précipitation qui ferait que les personnes n'auraient plus le temps nécessaire, ne serait-ce que pour accéder à l'OFPRA. Or, il y a une mesure dans le projet de loi qui va réduire ce délai-là. Donc, il nous semble que de ce point de vue, avant l'OFPRA, il y a des droits qui sont fragilisés pour ceux qui sont les plus éloignés de l'accompagnement.
L'accélération ne crée-t-elle pas une sorte de course contre la montre pour les demandeurs d'asile, Florent Boudier ?
Non, mais pour essayer d'expliquer un peu la philosophie générale de ce texte. D'un côté, faire en sorte que le droit d'asile redevienne efficace. Donc c'est la rapidité de réponse à des situations de détresse qui est absolument nécessaire. Il y a un débat aujourd'hui sur, au fond, où peut-on être le plus court possible. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut réduire le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou pas ? Vous y êtes opposé, je le sais. Ce qui est certain, c'est que sur l'amont, il y a beaucoup de temps perdu. C'est-à-dire entre le moment où on arrive sur le territoire français et le moment où on dépose son enregistrement. Donc, être efficace sur la demande d'asile, être à la hauteur de la détresse des personnes qui viennent chercher protection sur le territoire national. Mais lorsqu'on est en situation d'irrégularité, lorsqu'on ne fait pas partie des 45 000 qui ont obtenu la protection l'année dernière, 100 000 demandeurs, vous l'avez dit, 45 000, 43 000 pour être précis, qui ont reçu la protection. Lorsqu'on ne fait pas partie des 263 000 personnes qui ont reçu un titre de séjour, et que l'on est dans une situation d'irrégularité, le devoir d'un État de droit, c'est de faire en sorte que l'ordre républicain puisse aussi s'appliquer, et donc c'est la question de l'éloignement. Donc être à la hauteur sur l'asile, continuer une politique qui permet de délivrer des titres de séjour pour différentes catégories de la population, renforcer nos capacités d'intégration, parce qu'il n'y a pas en France de politique d'intégration, mais lorsque l'on est sans titre régulier, lorsque l'on n'a pas pu obtenir un titre de séjour pour X raisons, lorsque l'on n'est pas reconnu persécuté ou au statut de réfugié, alors il y a une nécessité de reconduite à la frontière, et c'est cet équilibre-là, difficile, que nous essayons de trouver. Je dis difficile parce que c'est un sujet qui forcément suscite beaucoup d'émotions et c'est normal. Et c'est aussi un sujet, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un sujet aussi qui suscite beaucoup d'instrumentalisation politique. Parce que vous voyez qu'on est enfermé aussi dans un débat où certains vont dire « vous voulez tout ouvrir » et d'autres considèrent que nous sommes dans le sécuritaire et la fermeture. Et donc cette ligne de crête, c'est celle que nous essayons de suivre.
Geneviève Jacques, comment vous vous positionnez sur cette ligne de crête ?
Je voudrais revenir à ceux qui sont présents sur le territoire français actuellement et qui sont en besoin de protection parce qu'ils viennent de pays où leurs vies sont en danger. On parle des demandeurs d'asile.
Oui.
Il y a ceux qui sont arrivés en France et qui ont eu la chance de ne pas passer par un autre pays européen. Et puis, il y a tous ceux qui sont passés par un autre pays européen, parce que c'est un peu difficile d'arriver à pied ou en voiture en France sans être passé par un autre pays européen, et qui font partie de ce que l'on appelle les Dublinés, c'est-à-dire de personnes qui ont laissé
leurs empreintes dans d'autres pays avant d'arriver en France, et
pays.
C'est dans ces pays que leur demande doit être traitée en principe,
voilà.
Selon
la loi. Or, ces pays ne sont pas en capacité de leur assurer une protection. Il s'agit de la Grèce, de l'Italie, de la Bulgarie, de la Hongrie. Il s'agit aussi, pour les Afghans, de pays comme l'Allemagne ou la Suède qui renvoient les Afghans en Afghanistan. Ces personnes-là, qui ne trouvent pas de protection dans d'autres pays européens, arrivent en France. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 100 000 demandeurs d'asile, ils ne sont pas comptabilisés non plus dans les 260 000 immigrations régulières. Et donc, ce sont des personnes qui sont en besoin de protection et pour lesquelles le projet de loi ne prévoit qu'une chose, c'est le placement en rétention ou bien l'assignation à résidence. Et là, disons, il y a une ligne rouge qui est en train d'être franchie.
Si je peux me permettre.
Alors, Florent Boudier, votre réponse.
Madame Jacques, d'abord, le principe en droit français n'a pas été modifié, ne le sera pas. C'est pas la rétention puis l'assignation, c'est le principe, c'est l'assignation. Et s'il n'y a pas d'autres possibilités, notamment dans les dernières heures qui précèdent l'éloignement, c'est la rétention administrative. Mais attention, vous parlez pas de la loi.
Vous ne parlez pas.
Mais le principe, c'est pas la rétention. Le principe, c'est d'abord l'assignation à résidence dans notre droit, et c'est maintenu. Et ça, c'est normal. On va pas.
Elle retient la possibilité de placer en centre de rétention des gens qui sont en protection internationale.
Une disposition de dernier recours si l'assignation à résidence n'a pas été possible. Et j'ai combattu dans l'hémicycle un amendement très significatif du débat que l'on aura dans quelques semaines sur le projet asile immigration. C'était jeudi soir dernier, un amendement d'Éric Ciotti, signé d'ailleurs, c'est le même que le Front National, qui voulait voulait faire de la rétention le principe. C'est-à-dire, on enferme d'abord et on parle après. Il n'en est pas question. Et ça n'est pas la loi qui prévoit Dublin, vous le savez. Évidemment, c'est un règlement européen. Et donc, toute la difficulté, là, vous avez parfaitement raison. Dublin, c'est un échec, Dublin. Dublin 3, ça ne marche pas. C'est un échec parce que Dublin, ça date, les premiers accords s'est tempéré, en fait, en 99. Bon. Et puis ensuite, il y a eu différents accords.
Avant le grand pic migratoire des années 2010.
Et donc, exactement. Voilà. Et ça ne marche plus parce que ça correspond plus à la situation d'aujourd'hui.
Pas du tout.
Mais réviser Dublin, c'est compliqué. Parce que parmi les interlocuteurs, vous avez des démocraties dites illibérales. Et qui, elles, sont pas sur la logique de solidarité.
On parle de pays de l'Est, notamment de l'Europe.
En particulier. Mais la France est pas, pourrait. D'abord, il existe, il y a une possibilité qui est inscrite dans les accords de Dublin, qui s'appelle une clause humanitaire, et qui laisserait la possibilité à la France, comme l'a fait Madame Merkel, souvenez-vous, avec les Syriens, elle n'a pas respecté du tout les accords de Dublin, qui laisserait à la France la possibilité d'accorder la possibilité à ces personnes de pouvoir déposer une demande d'asile en France, et or elle ne le fait pas, et la réponse est de dire attendons l'Europe. Mais attendons l'Europe, on sait très bien que c'est une attente qui va durer très longtemps.
Je dis
et
pas
donc
cela.
C'est un peu de se cacher derrière les dysfonctionnements européens pour pas prendre des responsabilités vis-à-vis de personnes qui sont là parmi nous actuellement sur nos trottoirs.
Florent Boudier,
l'exemple de l'Allemagne est un bon exemple parce qu'il démontre que l'initiative d'Angela Merkel, dans un premier temps, s'est achevée très vite devant la dure réalité du flux migratoire qui est extrêmement compliqué.
Parce que les autres pays européens
l'Allemagne avait prévu de prendre 800 000 réfugiés
Elle n'avait pas prévu.
C'est ce qu'elle a fait.
Elle a dit j'ouvre, elle pensait que les autres ouvriraient aussi.
Aujourd'hui, l'Allemagne, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais le nombre de demandes d'asile en Allemagne, c'est à peu près 200 000. Oui. C'est plus que la France. La France a augmenté considérablement et ça ne va pas s'arrêter parce que faut dire aussi, et ça rejoint le débat sur Dublin, c'est qu'on est face à un phénomène qui est d'une ampleur inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale. Le HCR compte à peu près 65 millions de déplacés à travers le monde. C'était un record
malheureux 65 millions vers l'Europe.
Et triste. Et j'allais dire, voyez à quel point le problème que nous avons à gérer en Europe reste une gouttelette par rapport à la situation mondiale.
Parce que la plupart des réfugiés de la guerre en Syrie, par exemple, sont dans les pays alentours, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Jordanie.
Bien sûr.
Et donc très clairement, l'Europe doit développer des démarches de solidarité à la hauteur. C'est pas se défausser que de dire ça. C'est simplement que la réponse, elle ne peut pas être que française. Ça, c'est une évidence.
Alors, il y a quand même des mesures protectrices dans ce texte. Geneviève Jacques, desquels vous félicitez-vous?
Alors on a bien cherché, mais on reconnaît qu'il y en a. Concernant les réfugiés, il y a la possibilité pour ceux à qui on a accordé une protection subsidiaire d'avoir une carte de 4 ans, donc de stabiliser leur droit au séjour. Ça va dans le bon sens. Et puis des mesures qui vont faciliter l'arrivée de familles de mineurs réfugiés, mais c'est de l'ordre de 700 personnes par an, donc c'est très petit. Mais ça, ce sont les seules mesures qui vont dans le sens de l'humanité entre guillemets. Le compte n'y est pas pour dire que le projet est équilibré.
Florent Boudier, il y a une menace de grève à l'OFPRA. C'est déjà le cas à la Cour nationale du droit d'asile. Il y a un préavis de grève qui court en ce moment. Est-ce que ça vous interpelle le fait que dans les organisations qui sont censées s'occuper des demandeurs d'asile, eh bien, on pense manifestement que ça ne va pas passer.
Mais vous disiez tout à l'heure, t'es nommé responsable du texte pour le groupe majoritaire. Le rôle avec la rapporteure Élise Fajgeles pour nous, pour beaucoup de parlementaires du groupe majoritaire, ce sera aussi d'aller chercher l'information, d'aller mettre en débat un certain nombre d'orientations qui sont aujourd'hui proposées, parce que naturellement, le groupe majoritaire aura sa copie. Du sujet. Et donc on a devant nous plusieurs semaines, le texte arrivera en commission au début du mois d'avril, dans l'hémicycle à la moitié du mois d'avril, on a toutes ces semaines pour débattre, discuter, écouter, et d'ailleurs nous serons quelques-uns à recevoir dans quelques jours les magistrats de la Cour nationale du droit d'asile.
Et la majorité se pose des questions, parce qu'elle est diverse, elle est quand même issue
comme tous les Français.
De députés qui penchaient plutôt à droite, d'autres qui, comme vous, étaient plutôt du côté du Parti Socialiste. Comment réussir à maintenir l'unité de cette majorité sur cette question, alors que manifestement, il y a du tiraillement.
D'abord, moi j'ai vécu un autre quinquennat, entre 2012 et 2017. Et donc, la diversité, voire la division au sein d'une formation politique, j'ai d'une certaine façon été bien payé pour la connaître. Voilà, puisqu'elle était permanente et à peu près sur tous les sujets. Donc, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans cette situation, loin de là. Et puis, si vous regardez d'autres partis politiques, je pense aux Républicains, pardon de faire un peu de politique, mais vous m'invitez à le faire, un parti qui, là, au contraire, s'uniformise, s'homogénéise, sous l'effet de Laurent Wauquiez, avec y compris des déclarations très récentes. Donc, nous, on a une diversité qu'on assume. Et dans les semaines qui viennent, on va établir et construire notre propre position. Mais les Français s'interrogent parce que c'est un sujet, encore une fois, qui, depuis au moins les années Sarkozy, a fait l'objet d'une hyper-instrumentalisation politicienne permanente, dans laquelle la classe politique de façon générale
et de tous les côtés
et les Français, j'ai dit la classe politique de façon générale, s'est totalement laissé enfermer. Si bien que c'est devenu un sujet abrasif et infamable, là où on devrait pouvoir être en capacité, comme d'ailleurs les Allemands viennent de le faire dans le programme de coalition entre les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens, on aurait dû, au cours des années précédentes, réussir à bâtir une plateforme commune d'action sur ce sujet. C'est ce que nous allons faire, d'une certaine façon, avec notre diversité au sein de La République En Marche.
Geneviève Jacques, la définition même du droit d'asile est-elle adaptée aux nouveaux défis, le défi climatique notamment ? Il n'y a pas d'asile climatique pour l'instant, ça n'existe pas ?
C'est ça. Alors ça, c'est un grand débat. Faut-il étendre la définition de la Convention de Genève ? Le droit d'asile est défini par un droit international, qui est la Convention de Genève, signée en 1951, voilà, et qui définit assez précisément, même s'il y a beaucoup de marge d'interprétation nationale, les personnes qui peuvent relever de ce droit international et qui sont des craintes de persécution pour raisons politiques, religieuses, d'orientation sexuelle et autres appartenances ethniques et autres conditions. Se pose maintenant, en raison des craquements du monde, d'autres causes de mouvements de population qui vont avoir également besoin de protection, dont les dérèglements climatiques. C'est déjà en route maintenant. Le grand débat, c'est faut-il étendre la Convention de Genève ? La plupart des gens disent non. Il faudrait un autre cadre international qui permette d'envisager la façon d'apporter une protection à ceux qui seraient obligés de quitter chez eux pour cause de dérèglement. Mais pour le moment, on parle de bien appliquer l'esprit de la Convention de Genève.
Florent Boudier, vous êtes d'accord ? Ce n'est qu'une étape, là, ce qu'on est en train de vivre
La question du
par rapport à ces questions-là, je veux dire, oui.
La question des réfugiés climatiques, elle est devant nous. Elle est majeure. Là encore, il sera très difficile pour la France d'apporter une réponse seule. Pour préciser ce qu'a dit Madame Jacques à l'instant, au fond, ceux qui disent qu'il ne faut pas modifier la Convention de Genève de 1951, ils le disent parce qu'ils craignent que si nous devions tenter sa modification à l'échelle internationale, ce serait pour certains pays demander une régression, une moins de protection des demandeurs d'asile. Il y a nécessité sur ce plan-là, je pense, que la France prenne des initiatives fortes à l'échelle internationale, parce que d'abord ce serait dans la lignée de sa tradition d'accueil, et ensuite parce que ce sujet, nous ne pourrons pas le contourner, il est devant nous.
Alors, Geneviève Jacques, il nous reste quelques secondes. Que diriez-vous à quelqu'un qui est en train de vous écouter quelque part en Afrique et qui envisage le voyage, de migrer vers l'Europe et vers la France en particulier ? Parce que c'est le cas en fait, en ce moment. Quelqu'un est en train de nous écouter et se pose cette question. Vous lui conseilleriez de venir ou pas ?
Je lui conseillerais de bien envisager l'ensemble de son projet, les risques du parcours migratoire et les difficultés d'arriver ici. Mais si la force de son projet, c'est de pouvoir intervenir dans son propre pays, s'il arrive, on l'accueillera.
Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Si vous êtes sur la route ou que vous envisagez de migrer, vous pouvez consulter le site infomigrant.net par FMM. Prochain débat demain, même heure.